Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Bonjour, les yeux du monde fixés sur la situation au Venezuela et la pression qui s'accentue sur Nicolas Maduro pour qu'il quitte le pouvoir. Pression des pays européens notamment, 19 au total ont reconnu Juan Guaido comme président par intérim. Et parmi ces 19 pays, il y a l'Espagne qui est le premier pays en Europe qui accueille le plus de Vénézuéliens en exil. Leur nombre a grimpé de 20% l'an dernier. 20 000 d'entre eux ont commencé à vivre à Barcelone, dans le nord, s'installer, retrouver du travail, mais avec le cœur qui bat toujours au rythme des événements de Caracas. Samedi dernier encore, ils se sont réunis à l'appel de Juan Guaido. C'est un reportage à Barcelone d'Élise Gazangel.
Voilà plus de 3 ans que Juan Pablo Bach, vénézuélien résident en Catalogne, collecte des médicaments via son association pour les envoyer dans son pays natal. Aujourd'hui, lui et sa compagne sont venus à Barcelone sur la place Catalogne à l'occasion du rassemblement de soutien à Juan Guaido qu'il considère comme leur nouveau président légitime. Avec son association, Juan Pablo explique vouloir couvrir un besoin basique dans un pays particulièrement touché par une crise sanitaire. À mesure qu'il voit ses cartons se remplir à côté de la Seine, il explique son émotion face à la solidarité.
Les Espagnols aussi ont cette volonté de nous aider de manière désintéressée. Ça nous émeut parce que ce n'est pas seulement la générosité du Vénézuélien qui vient déposer des médicaments et qui sait ce qui se passe là-bas, mais des gens d'ici qui commencent à être conscients de la situation.
Muy buenos días.
Tous les 2 mois, plusieurs colis contenant antibiotiques et autres traitements plus lourds sont envoyés en collaboration avec Caritas, une ONG catholique espagnole présente aussi au Venezuela. Drapeau vénézuélien flambe en neuf sur les épaules, José Gatsu vient se renseigner sur ses cartons pleins de médicaments.
Quand je suis arrivé ici, je suis allé dans une pharmacie et je suis resté bouche bée. Il y avait de l'aspirine, il y avait de tout. Là-bas, il n'y a rien. Et quand tu trouves quelque chose, ça coûte une fortune.
José est arrivé avec sa femme il y a tout juste 30 jours. Retraités, ils expliquent avoir tout quitté pour rejoindre Barcelone où étudie leur fille.
Ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas de gaz. On ne trouvait pas de nourriture. Et ma retraite, je l'apercevais parce que j'ai travaillé toute ma vie. Mais sais-tu ce que je pouvais m'acheter avec 1 mois de retraite là-bas? Un poulet.
Fils d'Espagnol, sa double nationalité lui a permis de s'installer légalement. Depuis hier, le retraité de 65 ans a trouvé un emploi de commercial indispensable pour vivre ici sans sa retraite.
Ça fait mal de quitter son pays, ça brise le cœur, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Au lieu d'avoir faim, on préfère prendre des risques.
Selon l'Institut National de Statistique espagnol, le nombre de Vénézuéliens arrivés en Espagne a doublé en 5 ans. La plupart des expatriés comptabilisés possèdent la double nationalité comme José, mais un nombre invérifiable de Vénézuéliens sans papier passe plusieurs années dans l'illégalité avant d'obtenir un titre de séjour. S'ils prouvent qu'ils résident dans le pays depuis 3 ans et qu'ils ont une offre d'emploi, l'Espagne régularise leur situation. Pour Francisco Mata, cette opportunité est une chance.
C'est très difficile de décider d'émigrer, et ici au moins, même si l'Espagne ne facilite pas les choses, elle nous donne l'opportunité d'émigrer, alors que d'autres pays ne le font pas. Et c'est dramatique pour beaucoup de Vénézuéliens.
Derrière la foule, au fond de la place, Virginia Rodriguez est assise sur le sol avec une amie. Marqueurs indélébiles à la main, elle termine de colorier les lettres majuscules de leur pancarte.
Là, on a écrit « Ce n'est pas une question d'idéologie. Nous parlons de droits de l'homme d'un pays entier. On est ici pour soutenir. Désolée, je suis émue. »
Larmes aux yeux et sanglots dans la voix, Virginia affirme qu'en tant qu'expatriée, sa mission est de faire connaître la situation de son pays à la communauté internationale. Elle dit lutter pour ses parents et sa famille, rester au Venezuela.
On parle d'avoir des médicaments, de la nourriture, d'être en sécurité, des choses basiques pour vivre.
Pour Mariela Diaz, porte-parole du parti de l'opposition Voluntad Popular en Catalogne et co-organisatrice du rassemblement, les exilés vénézuéliens ont joué un rôle clé dans l'internationalisation du conflit.
Chaque Vénézuélien qui a dû émigrer a été un porte-parole. Nous avons été les meilleurs ambassadeurs de notre pays. Si la communauté internationale nous a enfin soutenus, s'est penchée sur nous et s'est solidarisée avec notre cause, c'est grâce à l'apport de chacun des 5 millions de Vénézuéliens en exil.
Grâce au soutien de plusieurs associations et à l'entraide fortement développée entre les ressortissants, les Vénézuéliens installés en Espagne affirment se sentir bien accueillis dans leur processus migratoire. Aujourd'hui pourtant, beaucoup d'exilés en Espagne admettent penser à rentrer au pays si Maduro abandonnait le pouvoir.
Et si 19 pays européens comme l'Espagne apportent désormais leur soutien à Juan Guaido, l'Union européenne, elle, reste divisée. Des sources diplomatiques à Bruxelles indiquent que l'Italie a bloqué une déclaration commune de l'UE sur le sujet. De son côté, Nicolas Maduro a réagi très vite au soutien affiché des capitales européennes à Juan Guaido. Le président socialiste les accuse de soutenir les plans putschistes des États-Unis. Nicolas Maduro qui peut compter sur le soutien de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc, lors de sa visite à Caracas en décembre dernier, ce matin, il a accusé d'ailleurs l'UE de chercher à renverser Maduro au mépris de la démocratie. Et il n'est pas le seul en Turquie à s'afficher aux côtés du dirigeant vénézuélien. Les précisions d'Anne Handlauer à Istanbul.
Maduro, mon frère, tiens bon, nous sommes avec toi. C'est ce qu'aurait dit par téléphone le président turc Recep Tayyip Erdogan à son homologue vénézuélien Nicolas Maduro le 24 janvier, au lendemain de la reconnaissance par les États-Unis de l'opposant Juan Guaido comme président par intérim. Depuis, le chef de l'État turc multiplie les mots de soutien à son frère Maduro et les critiques outrées à toutes les capitales qui lui tournent le dos. Le président vénézuélien jouit aussi de la sympathie des médias turcs de tous bords, des islamistes à l'extrême gauche, des titres pro-Erdogan à ses plus sévères opposants. Rares sont les plumes qui osent ou même songent à écrire sur les raisons de la crise. Le sujet n'est traité que sous l'angle des relations turco-vénézuéliennes et même sous un angle turco-turc. Il faut dire que ce que les Turcs considèrent unanimement comme une tentative de coup d'État à Caracas réveille des souvenirs douloureux et récents. Recep Tayyip Erdogan n'a pas oublié que Nicolas Maduro a été l'un des premiers dirigeants à lui téléphoner après la tentative de putsch de juillet 2016, contrairement aux Européens et aux Américains dont les réactions à l'époque ont été beaucoup plus lentes et prudentes pour dire le moins. Pour ne rien arranger, l'immense majorité des Turcs sont convaincus que le coup d'État manqué qui a endeuillé leur pays a été orchestré par un prédicateur exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen, avec l'appui de la CIA. Recep Tayyip Erdogan n'est pas loin de penser que le pouvoir américain pourrait être tenté, un jour prochain, de le déclarer lui-même illégitime et d'encourager en Turquie des manifestations de l'opposition au prétexte d'une élection jugée irrégulière. Le soutien du président turc à Nicolas Maduro est donc aussi le fruit de cette peur d'une intervention étrangère. Dernier point en faveur du président vénézuélien, dans son bras de fer avec Washington, il incarne le visage de l'anti-américanisme et de l'anti-impérialisme, deux courants très ancrés dans la société turque, par-delà, là encore, les clivages politiques. À deux mois d'élections locales majeures, flatter la fibre anti-américaine des Turcs ne peut pas faire de mal à Recep Tayyip Erdogan.
La révolte des jeunes pour le climat, pour la planète, alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent. À la fin du siècle, au moins un tiers des glaces de l'Himalaya auront fondu, peut-être les deux tiers si rien ne change. Un message qu'on entend bien en Suisse, pays de montagne. En Suisse où le mouvement en faveur du climat touche désormais toutes les générations. Mais c'est bien avec les plus jeunes qu'il a commencé. Des manifestations, la grève dans les lycées. Ces jeunes dénoncent la frilosité du gouvernement sur les questions climatiques. Récemment, la révision de la loi sur le CO2 a été rejetée par le Parlement. Elle prévoyait, entre autres, une hausse des taxes sur l'essence. Un reportage à Lausanne de Katia Michel.
1, 2 et 3 degrés. Le climat est sur trouve tous les jours. Donc aujourd'hui, on est dans la rue pour cet acte bien pour la planète.
Ils ont entre 16 et 20 ans, lycéens ou étudiants, et déjà bien conscients des enjeux du réchauffement climatique.
On consomme en moyenne en Suisse 2 fois la planète. Donc c'est trop, c'est clairement trop. On n'a pas de planète, on n'en a qu'une. C'est à nous d'y faire attention, de la préserver. Je trouve que c'est super important qu'on dise qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe avec le climat, que ce soit les jeunes qui le disent, parce que c'est notre avenir. C'est nous que ça concerne, et je trouve que la politique ne font pas grand-chose au final, et que bah, du coup on est en train de faire mourir la planète et puis nous avec.
Récemment, les parlementaires suisses ont rejeté la loi sur le CO2 qui prévoyait entre autres une hausse des taxes sur le carburant. La Suisse a également décidé qu'elle n'emboîterait pas le pas à l'UE qui veut interdire les pailles, vaisselles jetables, touillettes à cocktail et autres objets en plastique à usage unique. Pour les jeunes, les politiques suisses manquent réellement d'ambition face à l'urgence climatique.
Le budget n'est pas assez réservé au climat. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de changement pour que ça aille mieux.
Offrir dans les écoles à tous les élèves une bouteille en verre, mettre plus de fontaines pour qu'ils puissent les remplir, mettre plus de micro-ondes aussi dans les écoles pour favoriser les élèves à prendre leur Tupperware. Enfin, pareil, dans les travails, valoriser les gens qui viennent en vélo ou qui prennent les transports communs, enfin, un rabais sur l'abonnement de bus.
Moi, je pense que déjà, il faut diminuer le plastique. Donc, par exemple, prendre nos Tupperware et arrêter d'acheter des aliments qui sont entourés de plastique tous les jours, par exemple, pour nos repas et des choses comme ça.
J'ai éliminé la viande. C'est les petits trucs déjà qui commencent à faire un effet.
C'est via les réseaux sociaux, Facebook notamment, que les jeunes ont lancé leur révolution verte. En s'inspirant de Greta Thunberg, cette jeune activiste suédoise de 15 ans qui chaque vendredi sèche les cours pour protester devant le Parlement de Stockholm. Devenue la nouvelle icône de la lutte contre le changement climatique, Greta a été invitée en Suisse au Forum économique mondial de Davos. À son arrivée, l'adolescente n'a pas manqué de saluer l'action des jeunes de Suisse.
Je leur dis bien joué et continuez vos manifestations, parce que si vous arrêtez maintenant, nous envoyons le message que c'était juste un événement unique. Mais si vous continuez à le faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, nous leur disons, nous allons continuer jusqu'à ce que vous preniez des mesures.
La classe politique en Suisse, peu habituée à devoir composer avec les revendications de la rue, se voit quelque peu déboussolée par cette mobilisation d'une ampleur inédite. Si la gauche et les Verts tentent de récupérer le mouvement, la droite sceptique s'est montrée très critique envers des jeunes qualifiés d'idéalistes. C'est le cas du député libéral Benoît Jeunecamp qui s'est exprimé sur Radio Lac à Genève.
Bon, c'est bien de descendre dans la rue. Il faudra soit changer les comportements, soit s'engager plus concrètement pour que les choses changent. Simplement descendre dans la rue, dire on a des méchants politiciens à Berne, c'est pour ça que le monde va mal, ça me paraissait un peu court. Et ceux qui veulent une conversation sur le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait en Suisse, quelle est la loi CO2, où est-ce que ça bloquait, sont les bienvenus. Mais d'abord, vous étudiez un peu le sujet. Vous regardez ce qui s'est fait avant juste de dire que ça vous convient pas.
Les jeunes vaudois l'ont pris au mot et ils ont fait irruption lors d'une séance au Parlement pour remettre une liste de 100 mesures pour le climat. Les parlementaires ont promis de plancher sur le sujet. Cette grève du climat n'est pas propre à la Suisse. À Bruxelles, il y a quelques jours, 35 000 élèves ont également déserté leur salle de classe. Les jeunes organisent des agora en France, à Paris et en Allemagne. Le mouvement a également mobilisé des milliers d'élèves.
La révolte des jeunes pour le climat au Royaume-Uni, c'est le mouvement Extinction Rébellion qui appelle à la désobéissance civile face à l'urgence climatique. Il y a 8 mois, ce n'était qu'un groupuscule. Il ne comptait qu'une dizaine de membres au Royaume-Uni. Depuis, ces activistes climatiques, ces militants se sont fait un nom et une réputation et se sont étendus dans 35 pays, notamment en Europe, Marie Billon.
Ils étaient d'abord une dizaine d'idéalistes qui voulaient sauver le monde et puis ils ont organisé des réunions dans les cafés, les pubs, les salles communes, les universités. Aujourd'hui, Extinction Rebellion s'est fait un nom. Le groupe appelle à la désobéissance civile dans l'urgence. Il interpelle les politiques et les entreprises. Tous doivent rapidement réaliser que l'environnement est en danger. Le contrat social a été brisé, explique une lettre signée par près de 100 universitaires en fin d'année dernière. Il est de notre droit, c'est même notre devoir moral d'outrepasser l'inaction du gouvernement et son manquement à ses devoirs en se rebellant pour sauver la vie elle-même. Roger Allam, fondateur du mouvement, est professeur spécialisé dans les mouvements sociaux. Il fait partie de ceux qui collectent des fiches remplies par les participants à la fin de chaque réunion. Tous doivent dire jusqu'où ils sont prêts à aller. Pour que la rébellion fonctionne, il faut que 30% des gens qui manifestent soient prêts à être arrêtés et que 10 à 20% soient prêts à aller en prison, explique Roger Allam. Extinction Rebellion veut frapper vite et fort. Et ses méthodes attirent tant les jeunes que les plus âgés. Le 15 février, le groupe appelle les établissements scolaires de tous les pays à faire la grève pour le climat. D'ici là, des dizaines de marches locales, de réunions pour apprendre à créer des bannières, de distribution de prospectus sont organisées au Royaume-Uni et au-delà. Extinction Rebellion a déjà bloqué plusieurs ponts dans le centre de Londres. Certains activistes se sont aussi collés les mains sur les parois d'un ministère. Le but maintenant est d'internationaliser le message et les méthodes. Extinction Rebellion a annoncé être en train de changer sa structure et son fonctionnement pour que 2 millions d'activistes puissent régulièrement et facilement organiser et prendre part aux activités.
Direction la Hongrie, où s'est ouvert il y a quelques jours le procès d'un étudiant en informatique. Il avait réussi à entrer dans le système interne d'un opérateur de télécom. Il a alerté la société de cette défaillance, mais celle-ci a porté plainte. Et le jeune homme est aujourd'hui poursuivi au pénal. Il risque 8 ans de prison. On en parle avec notre correspondante à Budapest, Florence Labruyère. Florence, pourquoi cet étudiant a-t-il pénétré le système de sécurité de cette entreprise? Est-ce qu'il s'agissait d'un acte délibéré?
Non, c'était le fait du hasard, affirme l'accusé, qui est un jeune homme de province. Son nom n'a pas été révélé pour l'instant. Il étudie la programmation informatique et en avril 2017, il avait alors 20 ans, en naviguant sur la toile, il a trouvé un manuel d'utilisateur du principal opérateur téléphonique hongrois, Magyar Telekom. Et il est tombé sur un mot de passe d'administrateur qui lui a permis d'entrer dans le réseau interne de l'opérateur. Alors il a immédiatement contacté ce dernier pour l'avertir de cette faille qui permettait à n'importe qui de pénétrer dans le système informatique de l'entreprise.
Mais Florence, quelle a été la réaction de l'entreprise ?
Eh bien, Magyar Telekom a reçu l'étudiant dans ses bureaux, l'a remercié et lui a même fait miroiter un éventuel emploi. Mais rien de concret n'est ressorti de ce rendez-vous. Quelques jours plus tard, l'étudiant a voulu vérifier le système de l'opérateur et il s'est aperçu que les failles étaient toujours là. Alors, il a fait plusieurs tests jusqu'au 2 mai. Là, il a vu que l'opérateur avait réglé le problème et il a cessé ses tentatives d'intrusion. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, le 2 mai, Magyar Telekom avait porté plainte contre lui et le 25 mai, la police est venue l'arrêter à son domicile.
Florence, le jeune homme a fait preuve de bonne foi puisqu'il a contacté l'entreprise de son propre chef. De quoi est-ce qu'on l'accuse exactement ?
Eh bien, l'entreprise l'accuse d'être un hacker. Il faut dire que l'étudiant est tout de même entré par effraction à 62 reprises dans le système informatique de Magyar Telekom, qui a peur, comme beaucoup d'entreprises, de la cybercriminalité. Selon la Convention internationale sur la cybercriminalité, pour qu'il y ait crime, il faut que l'action cause des dommages à la société tout entière, ce que n'a pas pu prouver le procureur de la République hongroise. Mais il a estimé que le jeune homme avait mis en danger une entreprise d'intérêt public, l'opérateur Magyar Telekom, parce qu'il avait eu accès aux données personnelles de plus de 4 millions d'abonnés.
Et de l'autre côté, quelle est la ligne de défense de l'étudiant ?
Alors, il est défendu par une ONG, l'Union pour les libertés civiles, qui affirme que l'étudiant est un hacker éthique. Il y a toute une jeune génération, en Hongrie et en Europe, qui est passionnée par le hacking éthique. Ça consiste à tester la fiabilité d'une entreprise en essayant d'entrer frauduleusement dans son réseau, dans le but non pas de nuire à l'entreprise, mais de renforcer sa sécurité. Et de nombreuses écoles forment ces hackers éthiques, qu'on appelle aussi les gentils hackers ou les chevaliers blancs. Il y a clairement un décalage entre ces jeunes informaticiens brillants et la justice qui n'a pas encore intégré ces nouvelles notions. La législation hongroise ne mentionne pas du tout les hackers éthiques. En revanche, elle protège les lanceurs d'alerte. Alors les avocats de la défense vont essayer de démontrer que leur client n'a causé aucun dommage, qu'il a voulu faire le bien. Il est en quelque sorte un lanceur d'alerte spécialisé en informatique.
Merci Florence, à bientôt. Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous nous suivez, vous nous réécoutez sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sur RFI.fr, vous retrouvez l'émission dans l'onglet podcast. C'est en haut, à droite, sur la page d'accueil. Et bien sûr, on se retrouve ici demain à la même heure.